Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote. France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Carnet de campagne, c'est ainsi que s'appelle cette émission. Non, je le rappelle puisque c'était une question posée par Nicolas Stoufflet lundi. Comment s'appelle l'émission juste avant le jeu des 1000 euros? Et mon cœur s'est brisé, vous l'imaginez, en constatant que les candidats hésitaient sur la réponse. Les carnets de campagne, donc, passent la semaine en Vendée, main dans la main avec le jeu, justement, qui est à la Barre de Mont, station balnéaire vendéenne. Et cette semaine, la culture prend une large place des carnets, car on s'intéresse à la place de la culture en milieu rural, à l'occasion du printemps de la ruralité, réflexion menée par le ministère de la Culture. Dans un instant, je passe un coup de fil à une ressourcerie culturelle, un endroit où l'on recycle les décors et le matériel de la culture. Mais d'abord, coup de projecteur sur une très jolie et très durable façon de faire ses courses alimentaires. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
C'était banal il y a quelques décennies. Aujourd'hui, cela nécessite un effort particulier. Le transport de marchandises à la voile fait son retour. Une association de noirmoutiers s'y attelle à son échelle. Les caboteurs de lune livrent du chocolat, des amandes ou encore de l'huile d'olive par bateau à voile. Bonjour Alexandre Etourneau.
Bonjour Dorothée.
Alors c'est très joli, hein, monsieur Etourneau, un homme qui porte un nom d'oiseau et qui organise le ravitaillement du Nil à la voile.
Ouais c'est merci, c'est gentil.
C'était écrit, non?
Je ne sais pas si c'était écrit. Après, effectivement, je m'en plains pas de ce nom.
Alors, vous êtes charpentier de marine, Alexandre, de profession, et vous êtes président bénévole de cette association Les Caboteurs de Lune, hébergée par l'asso Le Haran sur l'île de Noirmoutier. Quelles marchandises transportez-vous et quels sont les itinéraires?
Alors, il y a en gros deux circuits qui s'opèrent au long de l'année. Il va y avoir plutôt sur la période hivernale les transatlantiques pour ramener tout ce qui est fèves de cacao, grains de café, du sucre panela. C'est un sucre qui est pas raffiné, on va avoir aussi de la muscade. Et sur le retour, ils s'arrêtent aux Açores pour récupérer des filets de thon qui sont mis en conserve là-bas. Sur la période estivale, donc on va avoir les circuits plutôt européens, donc avec le Portugal. Donc vous le disiez, huile d'olive, amandes, Porto et autres produits de ce pays.
Voilà, c'est un mode de transport, inutile de le rappeler, qui est respectueux de la planète.
Ouais, ça essaye en tout cas, ouais.
Et les bateaux ne sont pas n'importe quel bateau, hein.
Non, pas du tout. Effectivement, on travaille avec des vieux gréements. Donc, ce sont des bateaux centenaires pour la plupart, qui étaient des bateaux de charge, en fait, des bateaux de travail, et qui sont donc complètement adaptés à ce genre d'opération, en fait, et de transport.
Voilà. Avec ces vieux et beaux bateaux, vous faites venir à Noirmoutier des produits qu'on ne peut pas obtenir localement. L'idée, c'est de consommer le plus local possible et d'utiliser le transport à la voile pour les produits qui n'existent pas localement.
C'est exactement ça. C'est vrai que le Portugal est aussi producteur de vin. L'association a fait le choix de pas proposer à nos acheteurs en fait ce genre de produit-là, puisque évidemment on en a localement et c'est un exemple parmi tant d'autres. En gros, on est un genre d'AMAP, si vous voulez. On essaye de prolonger le côté local avec ce mode de transport qui est propre, pour pouvoir consommer des produits qu'on trouve pas localement.
Et alors, comment ça marche? Il faut commander à l'avance?
Alors, en fait, on utilise un système de précommande, effectivement. On envoie un petit lien pour qu'ils puissent suivre le bateau, en fait, en direct, parce que vous parliez de choses qu'on faisait avant. Maintenant, on réutilise un petit peu ces techniques d'autrefois. Mais maintenant, on a aussi des outils, notamment pour la météo et pour le GPS, pour pouvoir suivre le bateau en direct, ce qui rend la chose beaucoup plus ludique.
Et d'ailleurs, le déchargement du bateau est une fête à chaque fois, je crois.
Exactement, ouais. On se fait fort de mettre l'accent sur le côté convivial pour recréer du lien en fait entre les gens qui utilisent ce mode de transport. Donc, petit concert, petite restauration, et puis surtout le déchargement participatif. Donc, effectivement, quand le bateau arrive, les gens l'attendent de pied ferme sur les quais. Et quand le bateau est prêt, on organise donc cette grande chaîne humaine pour décharger le bateau. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on est vraiment très nombreux pour ça. Donc, c'est fait très, très rapidement, en 10-20 minutes. Les 4 tonnes de marchandises sont déchargées sur le quai. Et ensuite, on organise la distribution.
C'est une manière, mine de rien, de repenser notre rapport à la consommation aussi. Faire la fête parce que le chocolat est arrivé à bon port.
Oui, exactement. C'est sûr que c'est pas je clique sur un bouton et le lendemain, je l'ai à la maison. Le fait de précommander environ un mois et demi, deux mois avant de recevoir ces marchandises, ça permet de leur donner aussi un côté naturel au transport. On prend plus conscience des distances qui sont parcourues. C'est un petit retour à la réalité en fait des choses et de ce que ça, à notre sens, devrait être plus commun.
Alors la particularité de Noirmoutier, comme beaucoup d'îles, hein, c'est l'énorme différence entre le nombre d'habitants l'été et le reste de l'année. 10 000 personnes en hiver, 150 000 en été. Et votre initiative, elle est pensée pour les habitants, en dehors du tourisme. C'est trop rare, j'imagine.
Effectivement, après, donc on se fait fort d'essayer d'organiser ces distributions et ces événements hors saison, pour justement permettre aux gens de l'île d'avoir des événements qui se passent un petit peu en dehors des périodes estivales. Après, on n'a pas la main non plus, puisque on travaille avec des entreprises qui ont leur propre planning, et forcément, le transport à la voile, on choisit pas non plus complètement son timing. On sait quand on part, on sait pas quand on arrive. Oui. Donc, on n'a pas la main là-dessus.
Alors, le cabotage, ça consiste à acheminer des marchandises ou des passagers sur des courtes distances, ça d'accord. Mais pourquoi la Lune? Pourquoi ce nom, les caboteurs de Lune?
C'est une bonne question. En gros, pendant l'Ancien Régime, les îles de Noirmoutier, Boin et Lillieu étaient affranchies. Donc, il y avait énormément de commerce qui se faisait à cette époque-là. Les bateaux venaient décharger sur ces îles, et forcément, qui dit commerce affranchisé dit contrebande, et les contrebandiers étaient surnommés les coureurs de lune. Ah. Donc comme nous on court pas, mais qu'on est plutôt, c'est quand même un système qui est assez lent, on était parti sur les marcheurs de lune. Après, ça faisait un petit peu trop club d'astronomie.
C'est vrai,
le terme caboteur est sorti assez naturellement. Ensuite,
les caboteurs de lune, association de Noirmoutier. Donc merci beaucoup Alexandre Etourneau.
Merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
À vous aussi, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Nous parlons de la culture à la campagne toute cette semaine à l'occasion du printemps de la ruralité, une réflexion menée par le ministère de la Culture. Et nous voici aujourd'hui à Montaigu, commune désormais baptisée Montaigu-Vendée, à une quarantaine de kilomètres au nord de La Roche-sur-Yon. C'est là qu'est installé un lieu qui rend la culture beaucoup plus éco-responsable, la ressourcerie culturelle. Bonjour Damien Forget.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et coordinateur de cet endroit. Alors vous offrez une seconde vie au décor de spectacle, mais aussi à tout ce que les festivals utilisent, le mobilier, les sanitaires, le matériel audiovisuel et j'en passe. Quel est votre rayon d'action, dites-moi? D'où viennent tous ces matériels et ces décors?
Alors les rayons d'action, ils sont assez transversaux au niveau de la culture, c'est-à-dire qu'on va aussi bien le début de l'histoire, il démarre avec les musiques actuelles, parce qu'on était des acteurs militants dans les musiques actuelles sur notre région, mais très rapidement on s'est ouvert sur le théâtre, on a été aussi bien sur le cinéma, aujourd'hui on a un petit peu plus d'attention sur le milieu de la muséographie, et on s'intéresse tout doucement à l'événementiel. Sur le secteur de la région Pays de Loire.
On a du mal à visualiser, évidemment, ce que vous récupérez. Avez-vous quelques exemples à me donner?
Alors, souvent, on dit que quand on rentre chez nous, c'est la caverne d'Ali Baba. Ce qui est le plus impressionnant, évidemment, c'est essentiellement les décors liés au milieu du théâtre, parce qu'on récupère toutes les productions des années 80 à 2000, à peu près. Ah oui. Donc, il y a des éléments assez grands. On peut récupérer des toiles d'opéra qui servaient à faire les fonds de scène des opéras, mais on peut aussi récupérer, là, devant moi, j'ai un escalier qui monte à 2 mètres, qui a été créé par une troupe de théâtre dans le secteur. juste pour leur événement. Et donc, à la fin, ben, à la base, ça partait à la déchetterie. Et là, on essaye de retrouver un preneur pour cet escalier. Mmh.
Vous n'êtes pas très loin de Clisson ? Est-ce que vous bossez avec le Hellfest, le festival de métal ?
Oui. On n'est pas très loin de Clisson. On travaille avec le Hellfest. Alors, pour eux, par exemple, on est sur les déchets de production de l'événement. Donc, on va plus récupérer tout ce qui est les jupes de scène, les moquettes liées sur les espaces VIP ou les espaces de presse. Donc, les moquettes qui sont logiquement jetées. Mais là, nous, on les récupère et on les reloue ou on les revend derrière.
Qu'est-ce qu'une jupe de scène ?
Une jupe de scène, c'est le tissu qui va cacher la scène au niveau du public, qui va cacher le dessous
sous de la scène. D'accord. Oui.
Voilà.
C'est un joli nom, la jupe de scène. Alors, que deviennent tous ces décors, toutes ces jupes de scène, cet escalier ? Qu'est-ce que vous en faites après ?
Alors, on va, selon les droits d'auteur, si les droits d'auteur sont, les décors n'ont pas de droits d'auteur, eh ben on va réemployer des façades de décors pour refaire des décors. Donc surtout les châssis. Il y a beaucoup de bois dans le milieu de l'événementiel. 70% de nos flux sont du bois pour les châssis. Et après, là, par exemple, on a collecté un robinet géant de 2 mètres de haut, qui était pour un salon qui illustrait les problématiques de l'eau. Et il y a de grandes chances qu'il s'en aille en scénographie sur un festival pour identifier le point d'eau pour le public. Donc on est toujours à la recherche à quoi ça pourrait servir dans un autre cadre. Il y a un côté très créatif dans ce métier-là qui est intéressant.
La ressourcerie culturelle de Montaigu appartient à un réseau national qui s'appelle RESAC et qui compte 16 structures, si je ne me trompe pas.
Oui.
Est-ce que vous diriez pour autant qu'il y a encore pas mal de boulot pour que s'impose l'idée de la récup dans le monde culturel ?
Oh là là, oui, il y a beaucoup de travail encore à fournir, aussi bien en termes de sensibilisation des gros acteurs, hein, parce que les petits acteurs, ils ont toujours fait, par manque de moyens, déjà dans ces concepts-là de récup ou de choses comme ça, mais les gros acteurs sont pas du tout encore dans cette marche-là. Donc il y a encore énormément de travail, il y a encore énormément de territoires en France qui sont pas pourvus de ces outils-là. Et puis, c'est pas tout facile aujourd'hui de déployer une ressourcerie culturelle, donc il y a des enjeux économiques assez importants. Mmh. Aujourd'hui, il y a encore énormément de travail de sensibilisation des acteurs au fait de pas jeter et de faire une deuxième vie, mais aussi au fait de créer avec des matériaux revalorisés par les ressourceries. Si on a que des acteurs qui viennent jeter chez nous, enfin nous donner des choses, et que ces gros acteurs ne viennent pas collecter pour reconstruire d'autres scénographies, l'économie circulaire ne se fera pas. Il faut vraiment que on amène les gens dans ces deux actions-là, récupérer sans jeter et de venir sourcer chez nous pour créer.
Oui, l'idée, par exemple, si je dois créer une scénographie pour une pièce de théâtre, c'est de d'abord venir chez vous pour voir ce qu'il y a de disponible et ensuite créer mon décor.
Exactement. Mmh. Souvent, là, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a beaucoup de travail encore, c'est que les scénographes qui viennent chez nous viennent souvent avec une envie, même des dimensions, des cotes et tout ça. Donc, tout de suite, la notion de réemploi, elle est contrainte à ce qui a été créé, alors que il y a les acteurs qui sont déjà avec nous depuis des années, je pense au Théâtre du Grand T ou des structures comme ça qui nous suivent depuis longtemps, sont déjà formés à qu'est-ce que vous avez dans votre caverne d'Alibaba et qu'est-ce qu'on pourrait créer avec. C'est une démarche complètement différente.
Et puis, la mutualisation est aussi le maître mot à la ressourcerie culturelle, et notamment acheter des matériels en commun à plusieurs, c'est ça ? Vous avez des exemples ?
Oui. Auprès des festivals de musiques actuelles, par exemple, qui avaient investi du matériel de cuisine, mais qui l'utilisaient deux fois dans l'année, nous, on a mis en place un système où les festivals peuvent mettre chez nous le matériel, et quand ils ne l'utilisent pas, on a l'autorisation de le louer à d'autres personnes. Et une partie de la mutualisation, et une autre mutualisation, c'est quatre festivals, ou trois festivals, ou trois acteurs culturels ont envie d'acheter quelque chose, la même chose. Et donc là, nous, on se positionne en élément central pour acheter ce matériel-là. Et quand ils en ont besoin, ils le disposent. Et nous, on a la logistique de ce matériel-là. C'est un peu comme une moissonneuse-batteuse chez les agriculteurs.
Ouais. D'ailleurs, vous êtes fils d'agriculteur, je crois.
Je suis fils d'agriculteur et j'ai 12 ans d'expérience dans le milieu agricole auparavant. Ouais.
La ressourcerie culturelle, c'est donc à Montaigu, en Vendée. Merci beaucoup, Damien Forget.
Ben, merci à vous.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.